Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la collaboration d'Anne-Marie Cavalier. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Heureux qui chante pour l'enfant et qui sans jamais rien lui dire le guide au chemin triomphant. Heureux qui chante pour l'enfant. C'est par ces mots que commence une célèbre chanson de Jacques Brel. Nous aussi, heureux sommes-nous en ce jour, car malgré les kilomètres qui nous séparent, nous sommes ensemble réunis autour d'une parole bouleversante. Parole que génération après génération se sont transmis des guetteurs, ces quêteurs de Dieu que sont les femmes et les hommes qui le cherchent à travers elles afin de donner un sens à leur vie. Jésus lui-même nous l'a promis. Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors oui, heureux sommes-nous de savoir que c'est Jésus lui-même qui fait route avec nous en cet instant. Amen.
Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Pour la douceur et la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus-Christ parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et de son royaume, béni sois-tu. Pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses envers tous les fidèles qui, au long des âges, ont annoncé et fait rayonner ton nom, pour ta fidélité envers le monde entier que tu aimes d'un amour sans limite, béni sois-tu. Pour notre présence, tous ensemble avec toi, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, cet honneur que tu nous fais de t'appeler tes enfants, pour cette joie que tu nous donnes, béni sois-tu. Fais-nous maintenant recevoir ta parole pour qu'elle apaise et entraîne, réconforte et réjouisse notre vie. Amen.
King Jesus.
Seigneur, je viens à toi fatigué des choses non dites, le cœur déchiré par les luttes insensées. Seigneur, je viens à toi l'esprit vide de cette lumière. Mon Dieu, je viens à toi. C'est vraiment le rien qui se présente à ta grandeur. C'est vraiment le pauvre qui n'a pas de quoi payer, qui n'a pas de quoi payer la vie, ni la mort, ni la paix, ni l'espérance. Voilà mon psaume pour aujourd'hui. Le psaume des hommes épuisés, épuisés à cause de ce qu'ils vivent, puisés encore à cause de ce qu'ils ne vivent pas. Ô Seigneur, cette fatigue devant l'inutile, toutes ces luttes insensées et ce grand cœur aujourd'hui vide, je les mets devant toi, et tel que je suis, je viens à toi. Mais Seigneur, avec Jean, nous croyons que tous ceux qui se tournent vers toi avec confiance reçoivent de toi la certitude de ton amour. Dieu est amour, nous dit cet apôtre. Ton amour a été manifesté envers nous en ce que tu as envoyé ton Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous t'avons aimé, mais en ce que tu nous as aimé et a envoyé ton Fils comme pardon pour nos péchés. Nous avons vraiment vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui éternellement. Amen.
Ainsi restaurés, nous pouvons mieux nous approprier cette prière largement inspirée par les mots de Claude Cobertou. Dieu, tu m'appelles à travers l'autre, tu m'interpelles par son étrangeté, tu m'interroges par sa différence, tu me déroutes dans mon domaine. Bref, Dieu, tu me déranges, ou plutôt, tu me fais signe. Pourtant, je me contenterai volontiers de ma vie sécurisante, définie et rythmée. Je m'y épanouis enraciné dans ma terre dont je connais bien les contours. Mais l'autre est toujours là sur mon chemin, insolite, troublant, multiple. Il se révèle d'abord comme une crainte, puis comme une remise en question, une aventure où toi, Dieu, tu m'entraînes. À l'exemple du Christ venu pour tous, je me mets en marche, et me voilà sorti de mon nid dans lequel m'engourdissaient mes habitudes et mon égoïsme. Mes yeux s'éclairent, je balbutie un autre langage, mes mains se tendent, les barrières se brisent. Une histoire se tisse avec ce prochain qui est si différent et qui me ressemble tant. N'est-il pas quelque part mon frère créé à ton image, ô Dieu ? Et je comprends alors que c'est à accueillir ce prochain qui croise ma route que tu m'appelles. Là est pour moi ta loi en ce jour. Amen. Avant de lire les Écritures, recueillons-nous un instant. Seigneur notre Dieu, si dimanche après dimanche nous ouvrons ce grand livre qui nous parle de toi, que nous éprouvons le besoin de le méditer encore et toujours, c'est que nous avons conscience qu'il n'est pas un texte figé, mais qu'au contraire, il nous dispense une parole vivante qui vient chaque jour nous dire quelque chose de neuf pour nous et pour le monde. Viens par ton Saint-Esprit nous aider à comprendre ce qu'elle a de nouveau à nous dire en ce jour. Amen.
Ésaïe 62, versets 1 à 5. Pour la cause de Sion, je ne resterai pas inactif. Pour la cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que ressorte, comme une clarté, sa justice et son salut, comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, une tiare de royauté dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus « l'abandonner ». On ne dira plus à ta terre « la désoler ». mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, et la terre l'épouser. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi et ta terre sera épousée. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme de son fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé par toi. Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais c'est partout le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. L'Esprit donne un message de sagesse à l'un et la science à l'autre. À un autre, le même Esprit donne la foi. À un autre encore, le seul et même Esprit accorde des dons de guérison. À un autre, le pouvoir de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le don de parler en langue. À un autre encore, celui de les interpréter. Mais cela, c'est le seul et même esprit qui le produit, distribuant à chacun selon sa volonté. Jean chapitre 2, versets 4 à 11. Il s'agit des fameuses noces de Cana. Parole de Jésus à Marie qui lui disait « Ils n'ont plus de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au servant « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune 2 à 3 mesures. Jésus dit au servant « Maintenant remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ?» Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Voilà bien trois textes qui, chacun à sa façon, nous disent quelque chose du projet de Dieu pour les hommes, élèvent légèrement le voile sur la façon dont il compte s'y prendre. Dans le premier texte, celui tiré d'Ésaïe, c'est l'action propre de Dieu qui est mise en avant. Dans le passage que nous venons de lire, l'auteur, dont on peut se demander s'il s'agit de Dieu lui-même s'exprimant par la bouche du prophète, ou plus simplement du prophète lui-même, l'auteur laisse entendre que c'est Dieu qui est directement à la manœuvre, et d'ailleurs que très probablement il y travaille déjà. Le peuple d'Israël vit alors l'exil de Babylone et semble bien impuissant à pouvoir faire évoluer le cours de l'histoire à son avantage. C'est peut-être pour cela que l'action directe et décisive de Dieu est ainsi mise en avant, parce qu'absolument nécessaire. Cette affirmation vise à maintenir l'espérance aux membres d'une communauté pour laquelle, à vue humaine, tout semble perdu. Ce texte vient affirmer que Dieu mettra un terme au temps sombre de l'exil et que sa gloire se manifestera à nouveau par une action éclatante, double témoignage de son amour pour son peuple et de sa toute-puissance. Cela se concrétisera par un retour d'Israël dans sa patrie. À ce moment-là, Jérusalem brillera à nouveau de mille feux. Peu de choses sont dites sur la façon dont Dieu compte s'y prendre. Peu de choses, en effet, sauf peut-être une indication donnée par le dernier verset qui parle d'épousailles entre fiancés. Dieu et le peuple constitueront à nouveau un couple fortement épris et soudé. Fin d'une période de désamour, je ne sais, mais possiblement, puisque l'exil à Babylone était alors perçu comme la conséquence des infidélités d'Israël à son Dieu. Dieu travaille donc à la fois à la libération de son peuple, mais également à sa réconciliation avec lui. Mais pour que cela soit possible, le peuple d'Israël doit lui-même accepter de rentrer dans ce projet, d'en être partie prenante et participer ainsi pleinement à cette œuvre de rédemption. C'est du moins comme cela que je comprends la comparaison faite entre les relations voulues par Dieu avec Israël et celles de fiancés épris l'un de l'autre. Si tout vient de Dieu et est initié par lui, il faut cependant, comme la fiancée et le fiancé s'acceptent mutuellement, que le peuple d'Israël accepte d'épouser cette cause. Ce temps viendra, assure le prophète, car tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme de son fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé par toi, écrit-il. Ainsi existent en filigrane, dès ce texte, les prémices d'une indispensable collaboration entre Dieu et les hommes. Tout vient de Dieu, comme nous l'avons dit, mais pour qu'il puisse accomplir ses promesses, il a besoin de l'adhésion des hommes à son projet. Le texte des Corinthiens est plus explicite sur la façon dont ce projet pour le monde pourra se réaliser. Dieu a besoin des hommes, de chaque homme, chacun à la place qui est la sienne pour réaliser ce grand œuvre. Paul l'explicite par son exposé sur les dons. La diversité humaine est immense, et cela est utile. Aucun homme ne possède le don ultime, absolu, qui permettrait de tout comprendre, de tout accomplir. Bien au contraire, pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, l'action de chaque individu est nécessaire au service de tous. L'édifice ainsi réalisé n'est pas le fruit d'un système hiérarchique vertical, mais au contraire d'une organisation humaine horizontale sous le regard de Dieu. Pour la réalisation de ce grand œuvre, aucun ne peut se prévaloir d'une utilité supérieure à celle des autres, d'une place plus importante que celle des autres. Diversité de dons, mais même esprit. Paul vient opportunément nous rappeler que la solidarité interhumaine est indispensable à la bonne marche du monde et à la réalisation du projet de Dieu pour nous. Il nous met tous sur un pied d'égalité, indiquant par là même qu'il ne faut laisser personne sur le bord de la route, puisque chacun a une mission à accomplir. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui inspire à chacun, ou plutôt prédispose chacun, à remplir la mission qui est la sienne. Mais il appartient à chacun d'en prendre acte et de se mettre en marche pour l'exécuter. J'observe en outre que cela devrait nous inciter à comprendre que, contrairement à ce dont nous rêvons trop souvent, l'homme providentiel n'existe pas. C'est en faisant confiance à notre intelligence collective que nous pouvons espérer affronter victorieusement les défis qui s'offrent à nous. Belle leçon dont nous devrions avoir la sagesse de nous inspirer largement. Ainsi donc, si Dieu est souvent à l'initiative, il a également besoin de nous et nous convie à accomplir la tâche que son Esprit lui-même nous donne la capacité d'exécuter. Les noces de Cana viennent apporter une touche supplémentaire à cette construction. Nos amis catholiques voient dans ce récit la confirmation du rôle fondamental joué par Marie, mère de Jésus, dans la genèse de son ministère. De fait, c'est bien elle qui, par ses paroles, le pousse à l'action, même si dans un premier temps, il s'en défend et même le lui reproche. Ce texte vient opportunément rappeler qu'à l'origine de toute grande destinée, existe souvent un petit élément, un catalyseur, comme on dit, dont l'action semble dérisoire une fois sa tâche accomplie, qu'on a souvent tendance à oublier par la suite, mais qui pourtant joue un rôle de starter déterminant. Comment le ministère de Jésus aurait-il commencé sans les noces de Cana et l'intervention de Marie, sa mère? Nous ne savons rien, mais il est certain qu'à ce moment-là, un petit quelque chose est arrivé qui a précipité l'événement et l'a mis en marche. Au total, lorsque l'on fait une lecture cursive de ces trois textes, il en ressort une impression assez forte de collaboration nécessaire entre les hommes et Dieu et entre les hommes entre eux pour que le projet de Dieu pour l'humanité puisse aboutir. À nous de guetter ce petit rien, ce petit signe qui nous mettra en marche et nous incitera à poursuivre nos routes en suivant cette voie. Pour certains, c'est déjà fait. Pour d'autres, c'est en devenir. Mais tous, un jour ou l'autre de leur vie, ont eu ou auront l'occasion d'être appelés. À Dieu le projet, à Dieu l'initiative de susciter des vocations, aux hommes de le concrétiser et de comprendre que ce n'est que solidairement et collectivement qu'ils pourront aboutir à la plénitude voulue par Dieu pour le monde et pour eux. Les pages du grand livre de l'histoire ne sont pas écrites par avance. Saurons-nous nous inscrire dans ce magnifique projet et en comprendre l'importance? Là est la grande question, là est le lieu de notre liberté, mais là aussi celui de notre espérance. Car les chrétiens que nous sommes ne peuvent douter un instant qu'avec patience et malgré nos infidélités multiples, Dieu ne renoncera jamais à son projet de vie pour nous et pour le monde. La toute-puissance de Dieu ne réside pas dans le clinquant des cymbales et des trompettes, mais dans sa capacité à ne jamais renoncer à ravauder patiemment les liens qu'il a tissés avec nous et que nous mettons trop souvent bien du zèle à distendre. Alors restons en éveil à l'écoute de sa parole. Amen. Thank you.
Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans sa majesté solitaire. Il a créé le monde. Il a fait de l'homme son vis-à-vis et son associé. Il s'est engagé avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous a pas abandonnés à notre révolte et à notre perdition. En Jésus, il a partagé notre humanité. En Christ, il nous a rendu l'espérance. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour, jour après jour. Il est présent parmi les hommes. Dans son Église, par son Esprit, pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, affermir notre foi, animer nos vies et nos actes. Oui, je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen. Seigneur, au moment où nous allons chacun de son côté poursuivre nos routes, nous voulons faire monter vers toi notre prière pour nos prochains et pour notre monde. Tu sais mieux que nous les souffrances qu'il habite, souffrances de la terre qui n'en peut plus de devoir donner plus qu'elle ne peut produire, souffrances des plantes qui ne peuvent plus s'adapter aux modifications climatiques que nous leur imposons, souffrance des bêtes dont les territoires se réduisent de plus en plus et servent trop souvent de simples variables d'ajustement à la satisfaction de nos propres désirs. Souffrance de femmes et d'hommes balancés qu'ils sont entre les désirs contraires qui les assaillent. Suscite en nous la capacité de rompre avec le cercle infernal où nous nous enfermons, cause de tant de malheurs. Rends-nous compatissants les uns envers les autres, afin qu'enfin puisse advenir ton royaume. Toutes les prières que nous voudrions faire monter vers toi, nous te les disons à travers celles que nous a appris notre Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, merci pour cette halte dans notre semaine. Nous retournons au monde rempli de ton souffle de vie. C'est lui qui nous envoie pour annoncer au monde cette immense espérance. La mort n'aura pas le dernier mot. Que ta bénédiction nous accompagne et nous fortifie tout au long de cette semaine qui s'ouvre devant nous. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de Nîmes, avec la collaboration d'Anne-Marie Cavalier. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.